Saguenay. Chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane. Pour contacter Maître Bouliane, 542-8111. 542-8111.
Maître Julien Bouliane, tout juste débarqué de l'avion. Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Ouais. Ça va vite. Là, je dirais que ce matin, c'était un peu violent. Là, je suis arrivé vers 3h cette nuit. Mais il y a beaucoup de dossiers ce matin. Puis il y avait aussi la chronique. Donc, je suis de retour.
Il y a eu pas mal de frappes durant votre absence. J'imagine quelques clients là-dedans?
Effectivement, on en a eu. Même, je dirais, la grande majorité là, sont de nos clients. Maître Pilote en a fait remettre. Aussi, la grande majorité de notre grande majorité sont déjà remis en liberté. Mais il m'en reste deux. Là, une enquête sur remise en liberté qui devrait procéder ce vendredi, que je dois donc préparer. Parce qu'évidemment, j'ai pas pu prendre connaissance de la preuve à distance, bien que j'ai resté en communication avec les personnes qui travaillent avec nous au bureau. Maintenant, de retour à la cour aujourd'hui, il y avait beaucoup de dossiers. Compte tenu que des trois dernières semaines, moi, j'ai rien laissé traîner sur la table. J'avais tout refixé à des dates ultérieures. Ce vendredi puis aujourd'hui, deux grosses journées. Donc, on est de retour les deux pieds dedans.
En force, ben comme faut.
Et voilà.
Mais la Russie, beau pays, vaut la peine d'être découvert?
Incroyable, c'est pas du tout l'image que je m'en faisais. Principalement dans les grandes villes, là, je dois le dire, Saint-Pétersbourg, Moscou, là, incroyable. Là, c'est la ville, selon moi, où c'est le plus riche au monde. J'ai pas fait de la vérification, là, mais le ratio, il y a de l'argent, là. Des Maybach, des chars de luxe, là, des Mercedes, des Ferrari, des Lamborghini, là, vous voyez ça à la pocheté, la ville est propre, là, l'espèce de camion qui lave la rue, là, il doit passer 10 fois par jour, c'est vivant, le monde est décontracté, on n'a pratiquement pas croisé de police, on pensait nous arriver à certaines places avec des contrôles de passeport ou des choses comme
ouais,
ça,
ouais.
Un peu dans le cocasse sur le bord des frontières avec des pays limitrophes, c'est un peu plus ça, l'image qu'on s'en fait, là, un petit peu plus austère, des choses comme ça, mais en ville, Saint-Pétersbourg, Moscou, des villes super tripantes. Resto au bar, ça sort tard le soir. Les gens vivent dans les rues. Il y a du monde partout. Une ville super intéressante. On a fait du vélo aussi dans un tout le long de la rivière. Là, il y a une espèce de grosse piste cyclable qui fait le tour de la ville. Donc, on a adoré, honnêtement. C'est une ville, c'est un pays, en fait, à découvrir.
Mais un peu comme Dubaï, Moscou, il y a des riches du pétrole. Hein? Donc, ça doit paraître.
Ah, effectivement. Parce que quand on était, mettons, dans le Caucase, les fameux modèles Lada, là, un peu boîte carrée.
Oui.
Je vous dirais que c'est un auto sur deux. À Moscou, je pense pas en avoir vu une.
OK.
Un char sur deux, c'est une Mercedes. Puis des Maybach, si on n'a pas vu 100, là, l'espèce de gros modèle Mercedes, là, c'est comme rien. Puis du monde avec des chauffeurs, puis des semi-limousines, puis des chars de luxe, puis des Bentley, des Rolls-Royce, là, il y en a à la pochetée. Donc, il y a du monde qui ont de la grosse argent là. Tu vois des gars d'à peu près 30-35 ans là, qui chauffent une Bentley. Là. T'es en droit de te poser certaines questions.
C'est un peu tannant.
Puis les femmes sont très, 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 très belles. Ah oui? Honnêtement, là, le ratio de belles filles, premièrement, j'ai pratiquement pas vu d'embonpoint.
Okay.
Honnêtement, là, c'est des gens qui sont, je dirais, tous dans le poids santé, là, à quelques écarts près. Mais les hommes sont aussi très sévères au niveau du visage. Là. Autant les femmes sont belles, autant vaut mieux pas trop les regarder longtemps. Les hommes, on dirait tous qu'ils sont très tough, là, on dirait tous qu'ils ont fait la guerre. D'ailleurs, ils ont tous le service militaire, c'est peut-être ça aussi. Là. Ils ont effectivement tous un peu fait la guerre. On est allé au show de Kiss dans leur super nouveau stade qu'ils ont bâti au centre-ville, là, qui a à peine un an. Ils vendent zéro alcool là. Tout le monde est drillé comme des moutons. Ça rentre bang, 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 mais ils devaient avoir au moins 500, si c'est pas 1000, militaires avec la matraque, l'anti-émeute en sortant du stade.
Oh boy, dis, ça marche, intérêt de driller.
Ça marche la tête baissée. Il y a un militaire à peu près aux 5 cm tout le long du chemin qu'il faut que tu prennes. Puis, essaie pas d'en prendre un autre là, parce que nous autres, notre hôtel était de l'autre côté du stade. Fait qu'on a dit, oh, on va passer par là. Hey. Puis, les Russes parlent très peu anglais, même à Moscou. Puis, leur truc, quand ils voient que tu comprends pas, c'est de le répéter plus fort puis plus vite en russe. Puis là, ils se disent, il va comprendre. Puis là, ils répètent. Puis là, de toute évidence, toi, tu comprends pas, mais dans leur face, tu te mets à comprendre assez rapidement que vaut mieux que tu revires de bord.
Il sent ça que tu comprends pas, lui. Il en a rien à cirer.
Effectivement.
Beaucoup de choses dans l'actualité judiciaire. Ce matin, peut-être à commencer par une histoire qui n'est pas tout à fait judiciaire, mais qui pourrait éventuellement déborder en justice. Là, on a affaire à trois jeunes filles, dont deux mineurs, qui s'en vont dans un bar parce qu'un influenceur, un tatoueur qui est invité là, ça se passe à Chicoutimi en fin de semaine, mais en fait dans les derniers jours. C'est une soirée sexy. On donne la bière gratuite aux 100 000 premières femmes, 100 ou 1000 premières femmes en fait qui se présentent sur place, là, mais quoi qu'il ne devait pas être 1000.
Ouais, parce qu'au 100 000, ça va être long.
Ouais, au 100 000, ça va être long à Chicoutimi.
C'est assez coûteux aussi.
Ça va coûter cher, mais tu sais, c'est traditionnel. Sauf que Ça finit par devenir, donc, la soirée sexy, les filles se frenchent entre elles, on les asperge de bière, on fait des vidéos de ça, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, et les filles de 16 et 17 ans ont été filmées en train de faire ce genre d'acte-là. Puis ça se retrouve de manière évidente dans leur école secondaire, tout le monde se partage ça, ou en fait, tout le monde les a vues. Est-ce que ces vidéos-là sont considérées comme illégales?
Faudrait voir jusqu'où ça va. Il faut le dire, la définition de pornographie juvénile est assez large. Parfois, on l'a vu, là, on a vu des auteurs qui écrivent des récits, mais ça doit être que la caractéristique principale est soit des organes génitaux ou soit des jeunes qui sont en train de faire des actes à connotation sexuelle. Si c'est juste à s'embrasser entre elles, je serais surpris qu'on puisse élargir le tout à la définition de pornographie juvénile. Parce qu'il faut le dire, l'âge de consentement, c'est 16 ans, mais par contre, de 16 à 18, si vous filmez ça, ces ébats-là, c'est carrément de la pornographie juvénile, parce que ça, l'âge est vraiment le fait que ce soit des mineurs,
ouais.
Donc moins de 18 ans. Donc si effectivement il y a des choses qui sont un peu plus explicites dans ces vidéos-là qui pourraient rentrer dans la définition de pornographie juvénile, là on peut se ramasser dans le gros trouble.
Elle soulève son chandail? On voit les seins à ce moment-là. Est-ce que c'est considéré comme de la porno?
Il y a des choses qui sont différentes dans la définition de pornographie juvénile. C'est que maintenant le nouveau crime d'avoir distribué des images intimes comprend les seins. Ce qui n'était pas le cas de la pornographie juvénile, où on parlait vraiment des organes génitales ou anales. Donc, on devait soit que ça soit vraiment que la caractéristique principale soit un zoom là-dessus, mm-hmm. ou soit une description, ou carrément, là, si vous voyez des fellations, des masturbations, des cunnilingus, des choses comme ça.
Ça, c'est évident.
Ça, c'est évident. Mais sinon, les seins n'est pas dans la définition de pornographie juvénile, d'où on a vu, là, à Québec, il y avait des jeunes qui s'étaient envoyés des vidéos de jeunes filles entre eux, là, une école privée, là, qui avait été expulsée, réintégrée. Il y en a qui ont des coupables, et on voyait qu'il y en a qui c'était de la distribution de pornographie juvénile, puis il y en a d'autres c'était de la distribution d'images intimes. Parce que dans la définition d'images intimes, on est allé un petit peu plus large, parce que souvent, sur les Snapchats de ce monde, là, c'était plutôt des seins que les jeunes filles envoyaient des choses comme ça, et ça, on a élargi la définition pour introduire ça. Or que si c'est simplement du soft, là, si on veut, en matière de pornographie juvénile, ça pourrait échapper à la définition, et ça pourrait échapper, évidemment, à des accusations potentielles.
Mais on joue sa ligne.
On joue sa ligne. Et même chose, lorsque ces individus-là invitent les jeunes filles dans leur chambre d'hôtel, l'âge de consentement, je le dis, c'est 16 ans. Si la jeune fille a 16 et 17 ans, vous avez une relation sexuelle avec elle, moralement, c'est une chose, mais légalement, vous ne risquez pas d'être accusé. Sauf que si le tout est arrosé, il faut faire attention. Parce que le consentement d'une personne qui est intoxiquée n'est pas valide, dépendamment de son degré d'intoxication. Donc, on joue avec le feu. Si vous saoulez des petites filles de 17 ans, vous amenez dans votre chambre d'hôtel dans le but d'avoir des relations sexuelles avec elles, puis que le lendemain, elles ne se souviennent plus de grand-chose, puis qu'ils vont porter plainte en disant qu'ils ne pouvaient pas consentir compte tenu de leur état, vous risquez de faire face à des accusations d'agression sexuelle, ni plus ni moins.
Oh, là, c'est problématique. Donc, en tout cas, les jeunes filles ont eu la présence d'esprit de refuser les invitations dans les chambres d'hôtel. C'est une bonne chose. Mais j'ai comme l'impression que ce genre d'affaires-là, avec les influenceurs, on va en voir de plus en plus, là, des vidéos qui circulent. Tu sais, des soirées dans des bars relativement sexy où on joue la game des soirées de débauche du gars qui est bien populaire puis qui a plein de belles filles autour de lui.
Mais souvenez-vous, il y en a deux, je me souviens pas de leur nom, là, mais deux jeunes influenceurs là, dans le coin de Montréal et Québec là, qui se font présentement en face. Il y en a un des deux qui fait face à des accusations justement en matière d'agression sexuelle puis de pornographie juvénile. Justement, dans ces contextes-là, ils faisaient des parties, ils invitaient du monde parce qu'ils étaient suivis par un paquet de petites filles. Ils les amenaient dans des chambres d'hôtel, même dans des loges, dans des bars où l'alcool coule à flot, des choses comme ça. Et là, il s'est retrouvé avec, je pense, des dizaines de chefs d'accusation parce qu'il y avait plein de filles qui étaient soit pas l'âge de consentement ou soit qui étaient mineures dans le cadre de production de pornographie.
Parce que dans le fond, ils n'ont rien inventé, mais comme ce qu'ils vendent, c'est de l'image, puis ce qu'ils vendent, c'est des vidéos, puis ce qu'ils vendent, c'est fait que c'est leur média le problème.
Tout est là, parce que écoutez, là, des jeunes de 15-16 ans qui sortent d'un bar, là, vous avez vécu ça à votre époque aussi, les gars.
Il y en a toujours eu,
On savait très bien quel bar qu'on pouvait rentrer là à 16 ans, puis qui nous vendait des verres de bière à 50 cents pour ne pas les nommer sur la rue Saint-Dominique, entre autres, puis même chose dans le coin de Chicoutimi. Fait que ça, on n'a rien inventé à ce que des mineurs soit dans des bars.
Mais dans notre temps, les filles, ils se frenchaient pas en petite tenue, puis ça se ramassait pas sur des réseaux sociaux ou à se partager à l'école au grand complet.
Là, la grosse problématique, c'est les médias sociaux, c'est qu'il y a des vidéos qui circulent, ça peut avoir des conséquences énormes. Il y a des vies qui sont brisées, ni plus ni moins, là, pour une affaire en bon état d'ébriété où les jeunes filles sont allées trop loin ou que ça peut être des gars. Et là, ça se retrouve sur les médias sociaux, ça se retrouve dans leurs écoles, ils sont harcelés, intimidés, des choses comme ça. Donc, faites très, 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 très attention parce que finalement, aujourd'hui, on est quasiment tout le temps filmé, fait que tout tout ce qu'on fait risque de se retrouver potentiellement sur les médias sociaux, puis ça peut avoir des conséquences qui durent pendant des années.
On a deux cas de harcèlement spectaculaires, dont un particulièrement celui de la groupie de Kevin Parent. Ça fait quelques années dont on parle de cette femme-là, qui là a été reconnue coupable, bien évidemment. Hey, le récit de l'histoire est épouvantable.
Ça dure des années. Elle a déjà été condamnée, des introductions par infraction. Au début, c'était une groupie, bon, elle venait assez chaud, nanana, est insistante, elle le draguait, des choses comme ça. À deux occasions, en Gaspésie, elle s'est introduite à l'intérieur de sa maison. Elle avait déjà eu une condamnation, déjà été déclarée non responsable criminellement.
Ah, parce qu'elle est folle, moi.
C'est-à-dire qu'elle avait commis le geste, mais elle n'avait pas l'état d'esprit, donc la mens rea requise. Donc, elle avait été déclarée non criminellement responsable. Et là, il y a eu des récidives. Encore une fois, il avait commencé à la revoir dans certains spectacles, commençait à être très, très, très inquiet. Et une fois de plus, s'est réveillé. Est encore rentré chez lui, est assis sur le bord de son lit.
Imagine, il se réveille fois mille. Là.
Non, mais là, ça commence à être inquiétant.
Il se réveille la nuit.
Pas à peu près, là.
Puis t'as une femme qui te regarde, est assise dans ton lit, puis elle te pense, ça va?
Parce que notre domicile, là, notre chez-soi, c'est supposé être notre dernier rempart, notre dernier, si on veut, place de protection. Si on commence en plus à s'introduire puis aller s'asseoir sur le bas de votre lit pour vous jaser, on peut comprendre que ça peut être très, très, très inquiétant. Même si on est un homme puis que c'est une femme, là, on peut avoir peur pour notre sécurité ou celle de nos proches.
Ah, mais des fois, tu sais, ça arrive la nuit. C'est un de mes enfants, je me réveille, il est à côté du lit, il me regarde. Je fais le saut. Imagine si c'est un autre adulte qui n'a pas d'affaires là.
Non. On peut facilement comprendre la réaction de Kevin Parent. Et dans ce cas-ci, il y a eu condamnation. Parce que la fameuse définition du harcèlement criminel, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous interpellent souvent, qui peuvent se sentir harcelées par le comportement d'un ex-conjoint, d'une ex-conjointe, d'une personne X, Y, Z pour diverses raisons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le harcèlement criminel ne vise pas toutes les formes d'harcèlement. C'est-à-dire que dans la définition qui est prévue au code dans lequel la couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments constitutifs, il doit y avoir un comportement harcelant, donc que la personne se sente harcelée, que vous l'ayez fait dans le but de l'harceler ou sans vous en soucier. Et c'est là que tout le critère, la deuxième étape s'en vient, c'est que ça doit avoir raisonnablement pour effet de vous faire craindre pour votre sécurité ou celle de vos proches.
Oui.
Donc, il ne suffit pas que ça soit harcelant. Parce que quelqu'un qui vous écrirait 1200 lettres d'amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime,
c'est
je
pas
t'aime,
épeurant.
S'il n'y a jamais de comportement qui vous fait craindre pour votre sécurité, c'est du pur harcèlement au sens commun du terme, mais non pas au sens criminel. Parce que le code criminel ne vise que les infractions les plus graves, si on veut, les comportements les plus dérangeants, ceux qui sont inacceptables en société. Et il y a beaucoup, entre autres récemment, il y a un de mes clients qui me venait et me racontait son histoire. Clairement, sa mère était harcelante à son égard. Elle allait voir tous ses amis, ses conjointes, les propriétaires de son appartement, sans arrêt, tout le temps pour dénoncer des comportements. Mais mon client pesait à peu près 250 livres, puis sa mère en pesait 110 livres. Puis honnêtement, c'est vrai que ce qu'il me décrivait était très harcelant, mais on n'aurait jamais convaincu le tribunal. Mais d'ailleurs, il n'était même pas capable de me le dire moi-même. Là, il n'en avait pas peur. Ça ne faisait pas en sorte qu'il avait peur d'elle. Il faisait juste la trouver très fatigante. Et ça, ce n'est pas du harcèlement.
Mais on a un cas comme ça, justement, dans les journaux ce matin où... comme la victime n'était pas assez une vraie victime, ben il n'y a pas eu de crime.
Effectivement. Yves Boisvert, parce que c'est une nouvelle qui a sorti le 13 juin, c'est la mairesse de Côte-des-Neiges à Montréal, qui fait partie d'une communauté religieuse, je crois, protestante. Et un ancien membre de cette communauté-là se comporterait de façon harcelante à son endroit, à telle enseigne qu'elle a porté plainte aux policiers, qu'il y a une accusation qui a été déposée et qu'il y a un procès qui a eu lieu. 13 juin dernier, la juge l'a acquitté du crime d'harcèlement, disait... clairement, c'est harcelant.
Mm-hmm.
Très, très, très harcelant. Mais je n'ai pas une preuve hors de tout doute que ça faisait en sorte que la mairesse avait peur pour sa sécurité ou à tout le moins qu'elle pouvait raisonnablement avoir peur de sa sécurité. Yves Boisvert revient à la charge, le chroniqueur de la presse Yves Boisvert revient à la charge aujourd'hui en disant que c'est un jugement inacceptable. Et il faut dire que la mairesse qui était la victime dans le dossier, est une ancienne collègue de travail là, qui était chroniqueuse judiciaire également. Donc, ça peut avoir influencé, si on veut, M. Boisvert a fait cette sortie-là.
Peut-être.
Et il trouve scandaleux qu'un comportement harcelant aboutisse à un acquittement. Mais dans l'analyse, c'est exactement ça. On voit ça, je ne dirais pas toutes les semaines, parce qu'il n'y a pas nécessairement un procès par semaine à Chicoutimi d'harcèlement, là, mais on voit ça des dizaines de fois par année.
D'un cause de divorce, ça doit arriver souvent, j'imagine.
Régulièrement, où il y a des plaintes qui sont portées, où soit les policiers ne le retiennent pas, soit la couronne décide de ne pas accuser, soit ultimement, à cours de route, on fait la démonstration que la personne n'avait pas peur du tout, bien que le comportement pouvait être harcelant au sens commun du terme, ou soit qu'il arrive les acquittements. Ça, là, ça arrive chaque semaine. Mm-hmm. Les juges doivent évaluer chacun des éléments constitutifs de l'infraction. Et dans le cas de la mairesse de Côte-des-Neiges. Il considère que oui, les comportements sont harcelants, mais pas suffisants pour faire craindre pour sa sécurité parce qu'il n'y a jamais eu de menace. Il n'y a rien eu d'autre. C'est quelqu'un qui prend mal d'avoir été rejeté par...
Mais il lui reste quoi comme recours? Exemple, la personne qui a laissé son chum puis qui se fait téléphoner, texter à toute heure de la journée pendant des jours. Il lui reste quoi comme recours si c'est pas criminel?
Ben, il y a le fameux 810, qui est une norme de preuve qui est différente. Le 810, c'est que ce n'est pas une accusation criminelle, mais si vous avez des motifs raisonnables de crainte pour votre sécurité, mais encore là, il y a le fameux raisonnable de crainte pour votre sécurité, mais qui est par prépondérance des probabilités, vous pouvez porter un 810. Et ça arrive régulièrement. Là, allez voir les polices, vous dites, écoutez, il y a quelqu'un qui a un comportement qui XYZ à mon endroit. Les policiers vont dire, ouais, c'est pas suffisant pour être du harcèlement criminel, parce que, comme je vous dis, on ne veut que judiciariser les cas les plus graves. Par contre, vous pourriez porter un 810. Un 810, vous auriez à convaincre le tribunal que vous avez des raisons de crainte, sans dire que c'est présentement du harcèlement, vous avez des raisons que la situation dégénère et que vous voulez simplement avoir un mandat de paix, c'est-à-dire que la personne, pour un maximum d'un an, a une interdiction de communiquer avec vous, d'être en présence ou de faire XY comportement. Ça, on voit ça beaucoup, qui est souvent une situation, je vous dirais, intermédiaire. Et ensuite, il y a tous les recours civils où, ultimement, ça pourrait tomber, bon, mise en demeure, etc., qui pourrait aboutir à une injonction. Puis aussi, une espèce de 810 civil qui existe également là, à la Cour supérieure, qui fait en sorte que vous pourriez obtenir, là, pour une plus longue période encore, là, des interdictions avec certaines personnes.
Mais quand on parle du civil, c'est pas la couronne qui te soutient, fait que là, faut que tu payes.
Effectivement. Et dans les 810, et ça coûte très cher aussi civil d'aller à la Cour supérieure pour obtenir une injonction. Fait qu'on fait pas ça juste parce qu'on trouve que notre texte nous écrit trop de poèmes, là. Faut le faire dans des situations plus sérieuses. Et les 810 aussi, parfois, c'est la couronne elle-même qui va le porter. Donc, qui va vous soutenir. Vous avez porté plainte de voies de fer. Mm-hmm. Vous avez porté plainte de menaces. Vous avez porté plainte d'harcèlement. La couronne est hésitante. Elle se dit, je serais pas capable de me décharger de mon fardeau hors de tout doute raisonnable. Mais clairement, ça mérite une certaine protection. La couronne va elle-même déposer un 810 contre mon client. Donc, à la base, il avait peut-être signé une promesse de voie de fer. C'était pas tout à fait dans le contexte un voie de fer, mais suffisamment pour que la victime ait des craintes. Et la couronne va déposer le 810 et ça va se traiter comme si c'était une accusation, mais qui va aboutir à ce que le juge tranche si vous avez assigné ou non le 810. Si la couronne ne veut pas embarquer là-dedans, pour des raisons X, Y, Z, vous pouvez toujours ce qu'on appelle déposer un 810 privé. Vous allez au palais de justice, vous allez au greffe, vous dites « Je veux porter un 810 contre Martin Thomas Côté, il me fait très peur avec ses tatous de super-héros. »
Donne pas cette idée-là, je vais en avoir beaucoup de 810.
Tous ceux qui tentent d'avoir des entrevues...
Tout le monde à qui j'appelle des entrevues.
Et là, à ce moment-là, vous allez vous présenter et vous vous représentez vous-même devant le juge. Et à ce moment-là, c'est à vous de faire les représentations et à convaincre le tribunal que la personne que vous pointez du doigt devrait signer 810 pour votre protection.
Maître Bouliane, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Bon retour.
Merci, mon père.
9.
Le show du matin. On revient dans quelques minutes. 95.7 Kick Saguenay.